En termes de bien-être animal, la pieuvre est déjà de nature un animal solitaire. Donc l'élevage intensif, ça veut dire des densités extrêmes qui donc vont complètement à l'encontre de la notion la plus élémentaire de bien-être animal. Et du coup, des pieuvres entre elles, avec ces densités-là, créeraient vraiment des problèmes d'automutilation, des problèmes d'agressivité, voire de cannibalisme.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Cet épisode est le troisième de notre série d'été sur la mer. Quatre épisodes pour vous faire prendre le large en long et en travers. Aujourd'hui, le poulpe. Certains noms d'aliments, plus que d'autres, suffisent à me faire saliver. Ce sont de simples associations de consonnes et de voyelles qui réveillent instantanément mes papilles, me replongent dans des souvenirs culinaires heureux, me mettent en appétit. Parmi eux, il y a l'adjectif qualificatif « roasted » qui convoque chez moi une appétissante vision de marques dorées sur des aliments grillés. Il y a aussi le mot espagnol « dulce de leche » dont la douce sonorité sonne comme une promesse d'onctuosité couleur caramel. Ou encore le mot « poulpe » qui active en 3 secondes mes récepteurs gustatifs avides d'une alléchante texture caoutchouteuse. Mais le poulpe, qui répond également au nom de pieuvre, car il s'agit bien du même animal, le poulpe est loin de plaire à tout le monde. Dans l'assiette, c'est même un mets plutôt clivant. Certains ont en horreur le mollusque à 8 bras. C'est le cas de Raphaël, un auditeur de Bouffon, qui raconte le malaise qui l'envahit rien qu'à l'idée de manger du poulpe.
Moi, j'aime pas le poulpe parce qu'en fait, ça me fait une sensation très bizarre dans la bouche quand j'en mange et même quand je le vois. J'ai l'impression que si j'en mange, il y a les tentacules, enfin les ventouses qui vont s'accrocher à ma gorge ou alors que le poulpe, il va pouvoir remonter grâce à ses tentacules et du coup, ça me répugne un peu, quoi. Il n'y a jamais l'effet dans ma bouche où il y a une ventouse qui s'est accrochée quand j'ai mangé un poulpe, mais c'est vraiment que dans mon imagination à moi, dans mon imaginaire, quoi.
Comme vous venez de l'entendre, le malaise ressenti par Raphaël est fantasmé, car il ne lui est jamais arrivé pareille expérience dans la vraie vie. Nul doute que Raphaël détesterait manger du sanakji, ce plat cru coréen qui consiste en une petite pieuvre découpée vivante et arrosée d'huile de sésame. Sur internet, les vidéos de personnes dégustant du sanakji et se faisant surprendre par une tentacule qui s'agite dans leur bouche sont nombreuses, et elles doivent être une certaine idée de l'enfer pour celles et ceux qui ont peur des poulpes. Le poulpe, on l'appelle ainsi car son nom vient du grec polypus, qui veut dire plusieurs pieds. Et pour moyen mnémotechnique, on peut se souvenir qu'en anglais, on dit octopus, en référence à ses 8 pieds. Sachant que chaque bras est recouvert de 2 rangées de ventouses, on peut facilement trouver jusqu'à 200 ventouses sur un poulpe. L'aversion que Raphaël a pour les poulpes s'explique clairement par leurs tentacules et leurs ventouses. Car au fond, le goût du céphalopode ne lui déplaît pas.
Je pense que s'il n'y avait pas les petites tentacules, je pourrais le manger parce que les quelques fois où j'en ai mangé, je n'ai pas trouvé ça mauvais non plus, quoi. Ce que j'aimais dedans, c'était le goût et enfin, même la chair, ça fait un peu comme du poulet au final. Et le goût, ouais, c'est un peu un mélange de poulet et de Saint-Jacques ou de poisson, je ne sais pas trop. J'ai déjà mangé des tielles et c'est vrai que là, pour le coup, comme c'était caché, il n'y avait pas de problème et je pouvais le manger. Mais par contre, en fait, c'est dès que je le vois, je me rappelle aussi la paella où il y a les tout petits poulpes. Et alors ça, mais c'est impossible, jamais je mangerai ça. Et il y a une autre fois aussi où j'avais mangé du poulpe dans une marinée à l'huile comme les sardines. Et en fait, il n'y avait pas les ventouses non plus. Enfin, c'était déjà bien préparé et bien coupé. Et là, pour le coup, j'en avais mangé et je m'étais régalé.
La tielle, c'est cette tourte ronde au bord cannelé, renfermant une garniture de poulpe coupée en morceaux et de sauce tomate pimentée. Originaire d'Italie et inspirée des empanadas espagnoles, cette spécialité est associée à la ville de Sète, où elle a été importée par les immigrés italiens à la fin du 19e siècle. Mais même s'il a un jour aimé manger de la tielle, au fond, Raphaël reste gêné par le principe même d'ingurgiter du poulpe.
En y repensant, pour moi, le poulpe, c'est vraiment pas un aliment comestible qui est fait pour être mangé. Je sais pas, c'est un peu absurde pour moi de manger du poulpe ou de le consommer. Enfin, il y a un truc qui est pas du tout humain là-dedans. C'est pas très cohérent.
Si l'idée paraît inconfortable pour beaucoup, c'est peut-être également en raison de l'intelligence qu'on prête à cet animal. Souvenez-vous de Paul Le Poulpe qui pronostiquait les résultats de l'Euro de football en 2008 et de la Coupe du Monde de 2010. Cette intelligence, c'est également ce qui a été mis en lumière par le documentaire oscarisé « La sagesse de la pieuvre » qui raconte la rencontre et l'amitié entre le plongeur Craig Foster et un poulpe. Mais revenons-en au poulpe en cuisine. La texture, le goût, de l'avis de celles et ceux qui aiment en manger, son goût est unique. C'est le cas de Billy qui apprécie tout particulièrement la mâche du poulpe et son goût iodé.
À la base, j'adore les fruits de mer. Et chez mes parents, on mangeait souvent des calamars à la romaine. À l'adolescence, j'ai découvert le poulpe parce que c'est pas un produit qui est hyper facile à amener aux enfants quand même avec les petites ventouses. Du coup, à l'adolescence, je me suis lancée et j'ai goûté la texture et la chair à la fois ferme et moelleuse et j'ai trouvé ça super bon. En fait, c'est particulièrement la texture que j'adore. J'aime bien surtout quand il y a les petites tentacules bien grillées avec les petites ventouses là, alors que c'était le truc qui dégoûte habituellement plutôt. Et moi, je trouve ça super bon. Et j'aime bien aussi le goût iodé. C'est plus fort que le calamar. Du coup, ça a beaucoup plus de caractère. Je trouve ça meilleur. Alors, j'avoue, j'en ai jamais cuisiné. Ça me fait un peu paniquer dès que je vois la recette pour faire du poulpe. Même si à chaque fois que je passe devant l'étalage du poissonnier, je me dis un petit poulpe à la maison, ce serait pas mal. Mais non, j'ai pas osé me lancer. Du coup, dès que je peux en trouver au resto, en fait, je fonce dessus pour pouvoir en manger. Comme j'ai trop peur de le faire à la maison. Mon numéro 1, c'est un souvenir de vacances avec mon meilleur ami. Et c'est comme ça que je le préfère, c'est-à-dire juste grillé au feu de bois avec de l'huile d'olive et un filet de citron. Lui, il était dégoûté de me voir manger des tentacules et moi, j'ai trop kiffé. Mon numéro 2, puisque j'adore la cuisine japonaise, c'est les takoyaki, c'est des petites boules de pâte avec à l'intérieur des morceaux de poulpe. C'est un peu comme trouver le cadeau dans le Kinder Surprise, c'est vraiment trop bon. Il y a quelques restos japonais qui en font sur Paris, mais je trouve qu'ils les vendent cher par rapport à ce qu'on peut... Quand on a eu la chance, comme moi, d'avoir été au Japon, de manger dans la rue, comme ça, tout simplement, avec une petite pique, de la petite mayonnaise japonaise et la petite sauce qui va bien. Et le numéro 3, en fait, c'est toutes les autres recettes, parce que dès que je peux en manger, je saute sur l'occasion. Il y en a de plus en plus dans les restos. Je pense pas que ce soit une bonne raison écologique, mais j'avoue que sur ce coup-là, ça me fait plutôt plaisir.
Billy souligne un point important, celui de l'écologie. Il est vrai que depuis quelques années, on trouve de plus en plus de poulpes au menu des restaurants. Je me souviens que dans les années 2000-2010, j'en commandais chaque fois que j'en trouvais à la carte, tant l'occasion me semblait rare. Désormais, on trouve du poulpe de plus en plus fréquemment, braisé au four, sauté en persillade, grillé à l'ail, rôti et même en kebab près de chez moi à Marseille. Et si les amateurs et amatrices de poulpe, dont je fais partie, sont ravis, cette consommation n'est pas sans poser quelques questions. Selon le CIWF, une ONG militant contre l'élevage intensif, nous sommes actuellement dans une situation de surconsommation de poulpe. Laetitia Dino, responsable communication du CIWF, qui a sorti un rapport intitulé « Élevage industriel des pieuvres, désastre annoncé », explique.
En fait, les céphalopodes, c'est pas uniquement les pieuvres ou poulpes, pieuvre et poulpe, c'est le même animal, mais aussi les seiches, les calamars, les nautiles. Donc, cette consommation de céphalopodes a vraiment, on va dire, explosé au cours des dernières décennies. Les céphalopodes sont consommés vraiment à grande échelle, en Asie, dans le golfe du Mexique et dans les pays méditerranéens, donc Espagne, Portugal, Grèce, Italie. Et donc, la consommation a énormément augmenté à partir, on va dire, du milieu du XXe siècle, avec une accélération au milieu des années 80. En 2014, il y avait un pic, c'est 5 millions de tonnes de céphalopodes, là je parle que de céphalopodes, qui étaient, on va dire, débarqués, donc capturés par an en 2014. Et donc, c'est 8 fois les niveaux de 1950. Et plus précisément sur les pieuvres, c'est aujourd'hui 400 000 tonnes, enfin c'était en 2015, 400 000 tonnes de pieuvres capturées par an, et c'est 10 fois le niveau de 1950. Et on dit aujourd'hui que, par exemple, juste au cours de la dernière décennie, la consommation mondiale a doublé. Donc il y a eu un intérêt accru des céphalopodes par les pêcheries au cours des dernières décennies. Pourquoi ? Parce qu'avec la surpêche, il y avait une baisse de la disponibilité des poissons. Or, la disponibilité des céphalopodes, elle, était là. Et donc, du coup, les pêcheries se sont tout naturellement intéressées à ces créatures.
C'est donc dans un contexte de surpêche et de baisse de disponibilité des poissons que les pêcheries, ces lieux aménagés pour la pêche, se sont tournées vers l'animal encore peu exploité qu'était le poulpe. Progressivement, le marché s'est donc vu inondé de poulpes. L'offre a tant augmenté que finalement, c'est la demande qui s'en est trouvée modifiée. C'est-à-dire que nous avons été peu à peu si exposés à la vente de poulpe que le goût général pour ce produit s'est affirmé. En somme, c'est le sursaut d'offre qui a créé en retour une augmentation de la demande.
Je crois vraiment que c'est dans ce sens-là que ça s'est opéré. C'est les pêcheries qui ont capturé davantage de céphalopodes et qui l'ont proposé. Et du coup, c'est ça qui a créé un changement de consommation. Il y a vraiment eu une évolution de l'environnement marin avec cette baisse de poissons. Et les céphalopodes étaient là à disposition. Donc, effectivement, ont été proposés en plus grande quantité.
Face à cette demande croissante, certains acteurs ont flairé le bon filon pour s'enrichir et veulent se lancer dans l'élevage industriel de pieuvres. En d'autres termes, ne plus se contenter de pêcher des pieuvres sauvages, mais les élever pour en commercialiser toujours plus. C'est le cas de l'entreprise espagnole Nueva Pescanova.
Ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui, c'est que donc, du coup, il y a une demande en augmentation et une offre en baisse, puisque les pieuvres sauvages sont donc amenées à disparaître à leur tour, puisqu'elles sont davantage capturées. Les pieuvres à l'état sauvage diminuent, or la demande augmente, donc ça crée une augmentation des prix. Et qui dit augmentation des prix, donc inflation avec un marché en croissance, nécessairement des industriels se sont intéressés au projet d'élever des pieuvres qui n'ont jamais été élevées auparavant pour pouvoir résoudre le problème de cette diminution des pieuvres.
L'idée d'élevage industriel de pieuvres n'est pour l'heure qu'à l'état de projet.
Donc avec cette demande accrue de pieuvres, il y a un marché en croissance. Donc il y a eu des projets d'élevage industriel de pieuvres. Les tests ont commencé dans les années 60. Donc c'est très très récent. Les tests les plus nombreux ont été faits dans les années 90. On a essayé de produire des pieuvres à grande échelle avec deux techniques. Il y avait la première technique qui était de capturer des juvéniles et de les engraisser dans des cages marines. Et la deuxième technique qui était vraiment d'élever les pieuvres dans des bassins sur terre. Et là, tout le cycle de vie des pieuvres était sous contrôle.
En l'absence de législation claire, les entrepreneurs avancent sans garde-fous.
Ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas vraiment de législation pour encadrer la protection du bien-être des pieuvres d'élevage. Donc, on ne sait pas beaucoup de choses sur ces projets. Mais on sait par contre que le projet, par exemple, de l'entreprise Nueva Pescanova sur l'île Canarie, ça, c'est un projet de pieuvres en bassin sur terre. Ces projets donc, d'élevage sont faits sur une espèce commune de la pieuvre qui s'appelle l'Octapus vulgaris parce que cette espèce avait dans la nature des taux de croissance élevés, des taux de reproduction élevés et son alimentation était de faible valeur. Donc c'était une aubaine pour l'industrie. Après, on sait aussi qu'il y a d'autres tests qui sont réalisés sur d'autres espèces. Donc ces tests sont très très récents, comme je le disais. Ils ont commencé dans les années 60 et on voit que les chercheurs de l'industrie maîtrisent mal encore, n'aboutissent pas à des projets vraiment qui ont des bons résultats. Ils ont des taux de mortalité élevés et des taux de reproduction qui ne sont pas encore totalement satisfaisants. Mais c'est surtout que ces projets posent des vrais soucis en termes de respect de bien-être animal, et je vais y revenir, et des gros problèmes en termes environnementaux et aussi accessoirement de sécurité alimentaire pour certaines zones du monde.
Le projet d'élevage intensif de pieuvres inquiète en termes de bien-être animal.
Donc, en termes de bien-être animal, la pieuvre est déjà de nature un animal solitaire. Donc, l'élevage intensif, ça veut dire des densités extrêmes qui donc, vont complètement à l'encontre de la notion la plus élémentaire de bien-être animal. Et du coup, des pieuvres entre elles, avec ces densités-là, créeraient vraiment des problèmes d'automutilation, des problèmes d'agressivité, voire de cannibalisme. Par ailleurs, la pieuvre est fragile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de squelette ni interne ni externe. Donc vous savez, vous l'avez tous vu dans les documentaires, la pieuvre, elle a ce moyen de locomotion rapide avec cette propulsion chimique pour échapper aux prédateurs. Donc si elle fait ça pour échapper à des dangers ou un stress qu'elle a, elle se cogne contre les parois des cages ou des bassins et elle est très fragile et elle serait vraiment blessée très souvent. Troisièmement, la pieuvre, elle est, on le sait tous, on a vu les documentaires, notamment La sagesse de la pieuvre, c'est un animal très curieux et très intelligent. Donc des environnements très appauvris, que ce soit la cage ou le bassin, eh bien elle s'ennuie. Et s'ennuyer, c'est pas comme nos enfants qui s'ennuient, c'est-à-dire que ça crée une détresse et un stress énorme qui d'ailleurs joue sur les taux de mortalité élevés. Autre point qui est problématique, c'est qu'on ne sait pas tant de choses que ça sur la pieuvre, qui est fascinante et très complexe. On connaît l'histoire de, elle a un cerveau dans chacun de ses 8 bras, plus un cerveau, bref. On ne sait pas grand-chose, donc les projets d'élevage qui en plus sont extrêmement récents, Par ailleurs, il n'y a aucune méthode d'abattage sans cruauté qui n'ait été validée par les scientifiques. La littérature sur le sujet, hein, c'est quand même on leur cogne sur la tête, on asphyxie dans des filets, on découpe les cerveaux, on les congèle dans la glace, mais aucune méthode vraiment sérieuse pour tuer cette créature sans l'avoir étourdie au préalable. Donc, comme il n'y a pas de législation, encore une fois, pour protéger cet animal qui est un invertébré, hein, alors j'ai envie d'employer cette expression de jeune de « c'est freestyle ». C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut faire un petit peu n'importe quoi, notamment pour les abattre ou les élever.
Mais le souci ne se limite pas à une question d'éthique animale. Il soulève également des enjeux écologiques.
Aujourd'hui, on le sait, on vit une crise mondiale de surpêche. L'élevage intensif est responsable de la majeure partie de la surpêche dans nos océans menacés. Aujourd'hui, c'est à peu près un quart des poissons sauvages qui sont destinés à produire des farines et des huiles de poissons qui vont servir pour alimenter les poissons carnivores d'élevage. Donc on voit bien là qu'il y a un problème puisque la pieuvre est carnivore, elle mange des petits crabes, des palourdes, des petits poissons. Et les chercheurs, l'industrie aujourd'hui n'est encore une fois que sur des projets pour nourrir ces animaux que à base de farine et d'huile de poisson. Donc on voit bien qu'on arrive à une surpression additionnelle qui devient intenable sur ces petits poissons sauvages qui sont donc pêchés pour nourrir ces espèces carnivores, alors que 90% d'entre eux pourraient nourrir les humains directement. Sans compter que du coup, ça fait baisser les stocks de nourriture pour les animaux sauvages qui sont dans les océans, les pingouins, mais évidemment j'en oublie. Donc en fait, ces projets d'élevage qui sont censés résoudre des problèmes de baisse des pieuvres sauvages, si on veut continuer d'en manger autant, voire plus, puisqu'on l'a dit, hein, la production est en augmentation. En fait, la solution de l'élevage ne résout en rien le problème, ne fait que le déplacer, voire l'accentue. Et on le voit bien, puisque ça va complètement à l'encontre des orientations stratégiques de l'Union européenne, qui, elle, dit bien qu'il faut sortir de la dépendance de l'aquaculture aux farines et huiles de poisson, et qu'il faut diversifier l'aquaculture pour développer des espèces qui ne se nourriraient pas de farine et d'huile de poisson. Et donc là, ça va à l'encontre de ça.
C'est sans compter les problèmes de sécurité alimentaire qui se présenteraient forcément avec ce type de projet. Car nourrir ces poulpes supposerait prélever des poissons pour en faire de la farine. Autant de poissons en moins pour des populations locales.
Accessoirement, ça crée aussi un problème de sécurité alimentaire puisque ces grandes quantités d'huile et de farine de poisson sont créées dans des usines qui sont dans des régions d'Afrique de l'Ouest, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. Et du coup, ces régions-là sont appauvries en poissons sauvages puisqu'ils sont pêchés en grande quantité pour produire cette alimentation destinée à l'élevage.
Éthique animale, désastre écologique, problème de sécurité alimentaire. Face à ces projets d'élevage de poulpes, l'association CIWF préconise tout simplement de cesser tout projet d'élevage intensif qui sont nécessairement un danger pour l'humanité.
Nous, chez CIWF, on veut absolument contrer ces projets qui sont, comme tu l'as très bien résumé, qui ne sont pas responsables, pas durables. Il faut les contrer, il faut les empêcher et il faut s'attaquer au problème de notre consommation, de notre production et notre consommation de produits animaux. Il faut non seulement réduire cette surproduction et cette surconsommation, mais il faut revoir nos systèmes alimentaires, notre façon de nous alimenter. L'alimentation a un énorme impact sur notre environnement et notamment le climat. Et si on permet, si les gouvernements de ces pays, ces projets sont dans les pays où la croissance est en augmentation, mais par exemple là, le projet sur l'île des Canaries, si on permet ces projets-là, on envoie un signal fort qu'on n'a toujours pas compris un problème qui n'est encore une fois, pas du tout que de l'ordre du bien-être animal qui est vraiment environnemental, mais au sens large. C'est l'environnement non seulement des pieuvres, mais de tous les poissons qui sont dans les océans, mais aussi de tous les êtres humains du coup qui sont sur la planète. Ne pas empêcher ces projets, c'est ne pas avoir compris le problème et les enjeux actuels environnementaux. D'ailleurs, il y a la notion aussi de One Health. On est enfin en train de comprendre et de démontrer que toutes les santé en fait sont un petit peu liées entre elles et que quand on va dans l'excès d'un côté, ça finit par nous impacter tous.
Finalement, ce que fait remarquer Laetitia Dino ici, c'est l'idée que l'élevage intensif n'est jamais un horizon souhaitable, car il revient forcément à puiser dans un écosystème pour l'appauvrir, et donc, en bout de chaîne, à bouleverser des équilibres mondiaux. En ce sens, ces projets d'élevage de poulpes font penser aux élevages de saumon en Écosse ou encore en Islande. Autant d'installations qui ont défiguré les côtes en plus d'altérer les stocks naturels, puisque des saumons d'élevage ont fini par s'enfuir des cages et donc à se reproduire avec des saumons sauvages, créant au passage une modification du génome naturel. Les impacts sont donc autant écologiques que génétiques. Pour contrer ces projets d'envergure, il nous appartient donc collectivement de revoir nos manières de consommer. Merci à Raphaël, Billy et Laetitia Dino de m'avoir donné de leur temps pour parler de poulpes. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Maillot.